Pavillon Nomade, le direct.
Bienvenue à toutes et à tous ici à la Casanova de Monté et sur les ondes de Pavillon Nomade, la radio associative née au quartier culturel de Malévo. Comme Raphaël nous l'a rappelé, nous sommes le 8 mars, certes une journée de votation, mais d'abord une journée internationale des droits des femmes. Il ne s'agit pas de la fête de la femme, comme on peut l'entendre ici et là, mais bien d'une journée des droits et de revendications. Car oui, les inégalités sont persistantes et les droits sont fragiles et régulièrement menacés. Et la littérature est là pour nous le rappeler. De tout temps, les écrivaines ont apporté le regard de femmes sur elles-mêmes, sur leur situation et sur la société. En témoignent les textes que nous allons entendre. Et parmi ces textes se trouve le premier, Le banquet des empouses, une parodie de la montagne magique de Thomas Mann, écrit par Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature en 2018. Dans ce texte, on accompagne des résidents d'un sanatorium. À travers leurs discussions, Olga Tokarczuk distille des propos misogynes qui sont en fait des paraphrases de grands penseurs comme Platon, Shakespeare et Freud.
Le docteur Semperweis a clairement interdit toute conversation lors des efforts physiques. Mais ces messieurs, oublieux de la consigne, poursuivent évidemment les discussions entamées la veille ou l'avant-veille, ou celles qu'ils relancent continuellement. Et ils ne cessent de s'arrêter en prenant appui sur leur bâton de marche. L'un des sujets brûlants demeure la disparition de la Joconde. 2 ans plus tôt, quelqu'un est entré au Louvre pour emporter avec lui le tableau comme si c'était une baguette de pain. Au jour anniversaire de ce vol, les journaux commentent à foison l'événement, car il n'y a toujours aucune trace de Mona Lisa. L'affaire divise le groupe en 2 camps. Thilo et M. Auguste affirment que c'est la perte irrémédiable d'un symbole civilisationnel, d'une de ces œuvres d'art qui sont les axes de notre culture, autour desquels nous nous structurons spirituellement, voire socialement, et que l'humanité a le devoir de protéger ses œuvres par-dessus tout. Monsieur Auguste s'exprime sur cette question avec une exaltation sincère. Chacun de ses mots semble commencer par une majuscule, et ses lèvres, désireuses de le prononcer correctement, gonflent et s'humidifient de salive sous le poids des initiales, de sorte que devant chaque P ou B, elle crachouille des gouttelettes indéniablement chargées de ces toujours mystérieux bacilles de corps. Wilhelm Opitz et Longin Lucas, quant à eux, parle d'hystérie et d'exagération de sa part, affirmant qu'il est des choses plus sérieuses que la Joconde et que s'ils apprécient Léonard en tant qu'artiste, ce n'est pas une raison suffisante pour placer les œuvres d'art sur un tel piédestal. En outre, ils affirment que la Joconde n'est que le portrait d'une maîtresse, laquelle affiche en outre un sourire libidineux qui suscite en nous un plaisir impur. « Oh, pas chez moi, s'offusque Monsieur Auguste. » Elle ne mérite pas l'intérêt qu'on lui porte. D'ailleurs, les œuvres d'art devraient éduquer, nous familiariser avec le passé. À cet instant, Longin Lucas change de sujet et s'emporte vraiment. Sa voix devient un aboiement lorsque il se lance dans une croisade contre l'art moderne qu'il trouve primitif et privé de toute qualité. Là-dessus, ils font montre de tant d'opiniâtreté que tout le monde doit s'arrêter, appuyé sur son bâton de randonnée, de sorte que leur halte dure plus de temps qu'il ne faudrait. Mais que faire, puisque Thilo doit prendre la défense de l'art moderne en s'efforçant de démontrer à Longin Lucas son incompétence, sa mentalité provinciale et son mauvais goût. Et en plus, ses capacités intellectuelles limitées. Ce qu'évidemment il ne dit pas expressément, mais dans sa voix pointe une ironie cinglante et celle-ci rend Longin Lucas encore plus furieux. Au bout du compte, c'est Mona Lisa qui ont fait les frais. Elle est laide. L'attrait des femmes vient souvent de ce qu'elles se conduisent comme si elles cachaient un mystère et c'est précisément ce qui attire les hommes. Mais de fait, ce n'est qu'un simulacre chez elle pour dissimuler un vide intellectuel. Sur ce, les émotions s'apaisent à croire que, sur ce point, au moins tous ces messieurs sont d'accord. Opitz ordonne donc de reprendre la marche. Quand ils recommencent à grimper, il leur faut se concentrer sur la route caillouteuse. Ils avancent donc en silence. Longin Lucas en profite. La femme représente une étape passée et inférieure de l'évolution, selon ce qu'écrit M. Darwin, et il a son mot à dire sur le sujet. La femme est comme... Longin Lucas voudrait être précis. Comme une attardée de l'évolution. Tandis que l'homme allait de l'avant, qu'il développait de nouvelles capacités, la femme a fait du surplace. Elle a stagné. Telle est la raison pour laquelle les femmes sont souvent socialement infirmes. Elles ne savent pas se débrouiller seules et doivent toujours s'appuyer sur un homme. Elles doivent donc lui faire de l'effet, le séduire et le manipuler. Le sourire de Mona Lisa est le symbole de toute cette stratégie pour s'en sortir évolutivement. Séduire et manipuler. Un moment plus tard, en dépit du chemin abrupt et de l'interdiction de parler en cours d'effort, la conversation prend une nouvelle direction et gagne de nouveau en intensité. Car à propos des femmes, chacun a quelque chose à dire. Maintenant, c'est Frommer qui prend la parole. Il parle, s'arrêtant souvent pour tracer de sa canne des dessins invisibles sur la mousse. Selon lui, il se passe des choses très particulières dans cette région. Il insiste pour dire qu'il l'a découvert dans les archives à Breslau et qu'il n'invente absolument rien. Il raconte que les terres environnantes ont été le théâtre d'un affrontement violent entre deux factions religieuses. La Réforme avait trouvé ici une tête de pont solide à proximité du pays des Tchèques. Mais de notre côté de la frontière, en Prusse, nombreux furent également ceux qui adhérèrent. Les paysans, les bourgeois, mais surtout la noblesse. Quand les catholiques reprirent le pouvoir, Stillfried, un noble, fut condamné à la confiscation de son fief et de la moitié de ses biens héréditaires pour avoir pris part à ce que l'on appelait la rébellion tchèque. Une sanction sévère. Pour sauver son patrimoine, il revint au catholicisme et, comme cela arrive en pareilles circonstances, il se révéla plus papiste que le pape. Dans sa ferveur religieuse, il se mit à poursuivre tout entorse à la sainte foi catholique, la moindre hérésie et plus particulièrement encore le paganisme. Ce fut lui qui déclencha les persécutions des hérétiques dans cette région et alors qu'il vivait au château de Neurode, son influence se fit sentir jusqu'à Waldenburg d'un côté et jusqu'à Glatz de l'autre. Ce fut ainsi au début du printemps 1639, ce Stillfried fit condamner à mort pour sorcellerie après plusieurs jours de torture Eva Bernhardt et Anna Tief. Oui, Frommer a retenu ces noms et il les livre maintenant avec une grande satisfaction parce qu'il est historien, certes amateur mais sérieux. Eva fut interrogée en avril et principalement questionnée à propos des sabbats des sorcières sur le mont Homol, côté tchèque. Eva livra le nom de toutes les femmes de sa connaissance, mais aussi de celles dont elle avait juste entendu parler ou qu'elle connaissait de vue dans la région, des deux côtés de la frontière. Barbara Brands de Kostenthal et Dorota Meinsner de Braunau, mais aussi les femmes de Niederwürstergerdorf ou de Gösperdorf. Eva eut la tête coupée et son corps fut brûlé à Neurode. Quant à Anna, elle ne vécut pas jusqu'au bûcher, elle mourut en prison des blessures causées par les tortures. Il semblerait que leur juge ait humé le sang comme le font les chiens de chasse et que, dès lors, chaque femme leur sembla impliquée dans des sortilèges. Et lorsque l'on regardait les montagnes, la forêt, les mousses, les pierres et surtout, une fois qu'en haut du mont Homol, on avait vu la grande fissure par laquelle le diable en personne sortait des entrailles de la terre pour les sabbats, on était gagné par la certitude que pareils endroits attiraient les femmes, moralement handicapées de naissance comme chacun sait, pour qu'elles s'y débarrassent du fruit de leurs entrailles, concoctent des mixtures empoisonnées, jettent des mauvais sorts aux innocents. Désormais, Les femmes pouvaient sentir peser sur elles le regard attentif des prêtres, des juges et de leurs aides. Même un voisin pouvait causer leur perte, mais aussi peut-être le frère ou le mari. À l'été, la peur était telle dans les villages des deux côtés de la frontière que les femmes abandonnaient leur famille et leurs devoirs pour fuir dans les montagnes, comme attirées par le son d'une flûte diabolique. Les villages se dépeuplaient, les vaches n'étaient plus traites, les enfants pleuraient de faim, les jardins étaient envahis par les mauvaises herbes, les vêtements s'effilochaient et se trouaient, raconte Fromer, énumérant presque en transe ces étapes de désintégration du monde. Les poêles restaient froids, les réserves de nourriture pourrissaient, les chiens et les chats retournaient à l'état sauvage et les moutons se couvraient de laine. À Braunau, du côté tchèque, Dorota et Barbara furent également torturées, écartelées puis livrées aux soufres et aux flammes du bûcher. Les habitants de la ville étaient épouvantés en entendant les cris qui s'échappaient des cachots de l'hôtel de ville, de sorte que, ne pouvant plus le supporter, la ville de Braunau s'adressa officiellement à Prague dans cette affaire. Elle s'inquiéta de savoir si les tortures devaient être poursuivies et s'il ne fallait pas faire peser les frais de procédure, deux thalers de l'Empire, sur les époux des accusés ou leurs frères, car Braunau était une ville modeste alors que les maris en question avaient de la fortune. Mais qui devait payer tout cela? La cour d'appel de Prague répondit que les tortures devaient cesser, les femmes être libérées et qui plus était exonérées des dépens du procès. Les femmes retrouvèrent leur liberté, mais le tribunal pragois refusa de les rétablir dans leur dignité. Elles moururent dans l'infamie. Hélas, Nerode ne défendit pas ses sorcières, termina Walter Fromer avec un semblant de tristesse. « Très beau récit, » déclara M. Auguste. « En outre, il montre la force du bon sens et des règles du marché. » On dit qu'un nombre conséquent de ces fuyardes ne sont pas revenus, lance encore Fromer. Mischlaff marche en silence. Il jette des regards inquiets à Thilo, tout en écoutant Fromer avec une attention régulièrement perturbée par les bruits de la forêt. Des froissements, un cri lointain d'oiseaux, le grincement des hêtres si hauts, ou encore par un animal aperçu du coin de l'œil, ou par la vue d'une petite touffe de poils sur une branche solitaire, à moins qu'il ne soit tout simplement distrait par l'immense panorama des montagnes qui apparaît brièvement entre les arbres élevés, puis disparaît quand les marcheurs redescendent un peu et que la forêt devient plus dense.
Un extrait du bal des empouses d'Olga Tokarczuk, lu par Oliva Seigne, pardon, merci. En 2019, le journal Le Temps publiait un article sur les 25 livres féministes qu'il faut avoir lus. 7 ans plus tard, la liste s'est forcément allongée et on doit y inclure, je pense, le texte d'Olga Tokarczuk et inclure le vôtre, Stéphanie Glasset, Les Ventreuses, paru aux éditions Gore des Alpes en 2020. C'est l'histoire d'une faiseuse d'anges. Il est question du corps des femmes, d'enfants non désirés et d'avortements clandestins. On ressent notamment de la colère dans ce court récit sans concession. Stéphanie Glasset, êtes-vous en colère?
Quelle magnifique introduction. Je pense que je ne le suis plus, mais que le texte a été très cathartique. Enfin, c'était passionnant en fait, de pouvoir développer ces thématiques et les venger aussi.
Comment s'est élaborée l'écriture de ce roman?
Alors, initialement, j'avais écrit un autre texte sorti en 2019 qui s'appelait Confidence assassine, pour lequel j'avais fait beaucoup de recherches sur la condition de vie des femmes dans nos villages d'altitude en 1800-1900. Assez naturellement, ça avait donné pas mal d'éléments pour des textes gore. Moi, j'avais surtout été passionnée par en fait, le traitement qui était réservé à tous les enfants ou les fœtus ou les enfants morts-nés non baptisés. Et en fait, au drame que c'était pour les familles croyantes à l'époque, d'imaginer que les enfants en question, s'ils n'avaient pas pu être baptisés, les âmes de ces enfants étaient condamnées à errer dans les limbes. Et les limbes, ce n'était pas un concept théologique extrêmement rassurant, parce que ça ressemblait un peu à une éternité de glace. Et pour pallier ce manque, il y avait deux pratiques qui m'ont fascinée. Une, c'était la pratique des chapelles à répit. Et en Valais, en fait, on a une grande richesse de chapelles à répit. C'était des lieux qui étaient réputés pour permettre à des parents qui arrivaient en procession avec un petit cadavre. Donc, on peut imaginer des fois des Italiennes qui traversaient les cols avec un cadavre d'enfant mort-né. On peut imaginer dans quel état il arrivait. On le déposait sur l'autel de la chapelle à répit. Et c'était un lieu réputé pour permettre le miracle d'un retour à la vie extrêmement provisoire, le temps de bénir le corps. En fait, c'était l'inconnaissance des processus de décomposition qui faisait qu'on interprétait n'importe quel mouvement d'un gaz dans le corps ou on posait une plume sur les lèvres comme une preuve de répit. Et donc, on baptisait et on enterrait ces petits corps juste devant les chapelles. Je trouvais ça fascinant. Et puis, l'autre pratique qui est un peu plus gore, c'est que si l'accoucheuse ou la faiseuse d'ange, selon les situations, se rendait compte que l'enfant n'allait pas être viable pendant l'accouchement, elle pouvait emplir son point d'eau bénite et l'introduire dans le vagin de la femme et bénir le front du bébé en promettant. Donc elle prenait sur elle, en fait, et je trouvais ça extrêmement touchant, elle disait « il était vivant ». Moi, j'étais dans l'accouchement, il était vivant, j'ai pu le baptiser et puis il est mort à la sortie. Et c'était pour épargner en fait ce chagrin immense aux mères qui avaient déjà perdu un enfant, qui en plus serait une âme damnée ou condamnée au limbe. Et ça m'a fascinée et ça a lancé en fait les ventreuses.
J'imagine, on est vraiment dans du gore, vous l'avez dit là, hein, je crois.
J'étais bien accueillie par eux, c'était le bon écrin, disons. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est complètement véridique.
C'est la question que j'allais vous poser, effectivement. Il y a des récits qui prouvent
c'est vraiment des phénomènes archivés, en fait. C'est ça qui est impressionnant, je trouve.
Est-ce que c'est propre au Valais ou bien vous avez constaté ça peut-être aussi dans d'autres cantons ou dans d'autres régions?
Alors, la grande inquiétude de ces milieux très refermés sur eux-mêmes, très féconds en grossesse non désirée, avec des faiseuses d'anges qui devaient intervenir, je pense qu'on a une petite palme en Valais, mais c'est pas, on n'a pas par contre l'exclusivité. Mais on trouve un nombre statistiquement plus élevé de chapelles à répit ici que dans d'autres lieux.
On peut toujours les visiter, ces chapelles à répit?
Alors elles sont plus... J'ai jamais vu dans la chapelle que ce soit écrit, même s'il y a quelques documentations mises devant, mais on a des listes, il y en a une à Savièse, il y en a... Ouais.
Stéphanie Glacé, vous avez étudié la littérature et la philosophie et vous êtes passionnée pour le XVIIe siècle, qualifié par certains historiens de grand siècle. Alors moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire, ce terme de grand siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là autour, hein?
Alors, grâce au fait que j'avais été prévenue de la question, j'ai pu me documenter. Voilà. Je lui disais tout à l'heure que quand on dit qu'on est spécialiste d'une période en littérature, en général, ça veut dire qu'on est spécialiste de 5 ans. Donc moi, j'ai, à l'époque de mes études, fait probablement partie des 15 personnes les plus spécialisées sur la littérature des années 1668 à 1672. De là à répondre à la question du grand siècle, c'était un peu limite. Donc oui, moi, je me suis passionnée pour cette période-là parce que c'était, et ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est un moment où le type de littérature à laquelle moi je me suis intéressée, c'est ce qu'on appelle la littérature mondaine. Et donc, c'était des sociétés très gynécentriques. En fait, on avait laissé les érudits qui parlaient latin, qui mobilisaient des concepts très complexes, ces espèces d'esprits universaux, forcément par les besoins de la chose qui étaient souvent des hommes un peu de côté. Et c'était la société des salons. Et en fait, c'est génial parce que là, ce soir, vous êtes dans le salon des écrivaines. C'était une société qui mettait des valeurs traditionnellement liées aux femmes en avant. Donc, la convivialité, l'esprit de joie, l'humour, le partage. Comme par un hasard qui n'en est pas un, il y avait beaucoup moins d'esprit de propriété intellectuelle. C'est une période sur laquelle on se casse un peu les dents si on y va avec notre esprit de « mais c'est toi qui as écrit ça ou c'est toi qui as écrit ça ?» En fait, il y avait beaucoup d'écritures, il ne l'aurait pas dit comme ça à l'époque, mais collaboratives, et c'était organisé autour de figures féminines qui tenaient les salons et autour des nobles qui les entouraient. Donc moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Parmi ces figures féminines, on peut citer par exemple...
Alors moi, je me suis absolument passionnée pour Mademoiselle Desjardins, qui est en fait une des... Bon, on dit souvent ça, mais là, je crois que c'est vrai. Une des premières femmes à avoir vraiment vécu de sa plume. Elle a écrit des pièces pour Molière. Alors là, l'histoire s'est empressée de l'oublier ensuite, mais elle était fascinante. Et en fait, elle avait monté ce sur quoi moi j'ai vraiment travaillé. Elle avait monté un subterfuge littéraire. Ça veut dire que c'était une femme qui a écrit plusieurs romans, qui a écrit du théâtre, et puis tout à coup, elle fait paraître un recueil qui s'appelle Lettres et billets galants. Et en fait, elle dit, ce sont mes vrais billets. Donc c'était déjà une femme connue, une femme du monde. Et elle dit, ce sont les vrais billets que j'ai écrits à mon amant. Elle a une citation qui dit, quand on aime son amant, on lui écrit volontiers un peu follement. Et elle joue sur l'abus masculin de l'époque en disant, mon ancien amant et mon éditeur se sont ligués contre moi, ils m'ont volé ces billets et ils les font paraître. Et donc évidemment, tout le monde se précipite parce qu'on croit que c'est sa littérature intime. Et quand on l'étudie avec une connaissance de l'époque, on remarque que c'est un montage, en fait.
Une personne, donc une femme écrivaine à découvrir.
Fascinante, vraiment.
Jusqu'à la fin de ce grand siècle, quand même, on persécute par vagues successives, notamment les femmes, et ce, pour sorcellerie. On estime aujourd'hui qu'il y a eu environ 100 000 procès pour sorcellerie et des dizaines de personnes envoyées au bûcher en Europe. Des persécutions qui ont eu lieu aussi ailleurs dans le monde. On peut citer par exemple le célèbre procès des sorcières de Salem. Et le mot sorcière nous intéresse. Et je vous propose, Stéphanie Glacé, eh bien, de nous lire un extrait du prologue de votre livre « Les Ventreuses » paru, je le rappelle, aux éditions Gore des Alpes.
Alors c'est vrai que c'est un autre type de... C'est en 1600, mais c'est un autre type de grand siècle. Prologue, 1600. Un violent coup de pied dans les côtes la réveilla. Angélique gémit et ouvrit les yeux pour n'apercevoir que les lourds souliers des hommes qui grognaient et lui tombaient dessus. Il sentait l'excitation mauvaise, l'eau de vie et la colère. Renversée sur le dos par un coup, elle vit sa poitrine exposée au regard. Un homme s'agenouilla sur elle, dénuda son sein et l'écrasa entre ses doigts calleux, aux ongles noirs. On le laissa s'agiter un temps en riant, puis on l'écarta et on leva Angélique. Comme elle essayait de se dégager, une violente claque fit gicler la salive puis le sang hors de sa bouche. Celui qu'on avait empêché, presque écumant, hors de lui, lui mordit le sein resté libre. Les dents s'enfoncèrent dans la chair tendre et blanche. Réveillé par le goût du sang, il se jeta sur elle et on dut le retenir. Dans son berceau, Marie-Ange, la fille d'Angélique, hurlait. On la tira hors du grenier où elle vivait. On la poussa dans les escaliers de bois, à travers la pièce où se trouvait le fourneau, puis enfin, dehors, dans la nuit. Comme la porte s'ouvrait, un éclair zébra le ciel et illumina le visage sanglant d'Angélique, alors qu'une bourrasque soulevait ses cheveux. Un frémissement. Les hommes reculèrent. Sur leur visage, la peur avait remplacé la colère. Les plus audacieux la bousculèrent sans plus de débordement pour qu'elle avance. Aucun d'eux ne vit le corbeau qui prit son envol à leur suite. Sur leur chemin, des volets claquaient, des portes se fermaient, des silhouettes se reculaient. Toutes et tous savaient. Certains craignaient qu'elle ne leur jette un sort en passant. D'autres se réjouissaient du divertissement. Ceux qui avaient proposé de s'en occuper n'étaient certainement pas les plus courageux, mais bel et bien les plus excités. Puisque cette femme n'en était plus une, ne leur serait-il pas permis de lui faire ce qu'ils voulaient ? En attendant la nuit pour cette expédition punitive, ils s'étaient enivrés d'eau-de-vie, de louanges quant à leur courage et de jubilation à propos de ce qu'ils lui feraient une fois qu'elle serait à leur merci. Ils étaient si fâchés d'avoir peur d'elle qu'ils rêvaient de rétablir l'équilibre, de reprendre ce pouvoir qu'elle semblait leur voler. À leur passage, quelqu'un cria « Sorcière ». Ce fut alors comme le signal que toutes et tous attendaient, l'appel. Des fenêtres, des greniers, des portes, des têtes apparurent. « Sorcière, sorcière » répétait-on. Le premier à sortir et à suivre le petit groupe fut un homme dont Angélique avait fait naître les trois enfants. Après lui, ce fut la cohue. Tous voulaient participer au cortège pour montrer qu'ils n'avaient aucun lien avec elle. Les femmes hésitèrent encore un peu, puis rejoignirent les hommes. La colère montait, on l'insultait, on la poussait. Une femme lui tira même les cheveux. Angélique, dans une surprise froide, reconnut celle qu'elle avait aidée à avorter par deux fois parce que son beau-père l'avait violée. Personne ne semblait plus reconnaître en elle celle qui distribuait les remèdes et assistait les femmes et les vieux. Pour tous, elle était devenue la sorcière. L'hystérie allait avec l'amnésie.
un extrait de votre livre « Les ventreuses » paru aux éditions Gore des Alpes, Stéphanie Glacé, la sorcière qui traverse les mythes et l'histoire sous des visages multiples et qui inspire les luttes féministes. Est-ce que vous en avez croisé des sorcières ?
Alors, je pense que j'ai la chance d'être entourée de beaucoup de sorcières au quotidien. Dans le sens où, si on prend cette acception-là de l'archétype, je pense que j'ai la chance d'être entourée de beaucoup de femmes qui ont cultivé une forme de liberté, une forme aussi de connaissance des sagesses ancestrales, un rapport au monde qui serait facilement catégorisé comme tel.
Comment, en tant qu'écrivaine, rendre compte de la réalité des femmes actuellement ?
Très très belle question. Moi, j'ai pas la sensation d'avoir intellectualisé une démarche où je me suis dit je suis écrivaine, j'ai envie de rendre compte de cette réalité. J'ai une vision très engagée de l'écriture où, à mon sens, sitôt qu'on a la possibilité de prendre la parole, que ce soit par écrit ou dans un micro, on se doit de se mettre au service de quelque chose d'important. Je pense que c'est simplement en donnant vie aux personnages féminins qui existent dans mon inconscient, dans ma tête, dans mon cœur, et en leur permettant de vivre ce qu'elles ont à vivre, que forcément, dans une myriade ou un kaléidoscope de destin, ça rend compte de quelque chose.
On parle souvent de patrimoine, et je me suis posé la question s'il ne faudrait pas dire matrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est magnifique. Ça ramènerait à cette idée, hein, quand on parle du texte, de la textualité, de ce qui se tisse, de ce qui se tresse, ça nous ressortirait peut-être un peu d'une posture trop viriliste où on imagine dans le patrimoine aussi, à ce moment-là, ben, que des grands noms de l'histoire. Et ces noms sont souvent des noms d'hommes. Et ça nous ramènerait à quelque chose qui, même au niveau de la recherche, serait plus intéressant, parce que ça nous ramènerait au terrain. En fait, au terrain d'émergence des choses qui se passent, qui est souvent un terrain qui est tenu ou structuré par des champs très féminins.
Dans ce matrimoine de la littérature, il y a une auteure dont on va entendre les mots maintenant. Il s'agit de Joy Carol Oates. Elle a publié quelques 150 ouvrages qui vont du roman à la nouvelle, du théâtre à la poésie, de la mémoire au livre de jeunesse. Elle a été plusieurs fois citée pour le prix Nobel de littérature, qu'elle n'a toujours pas eu. En 2012, paraît Mud Woman, un portrait de femme fait de renoncements volontaires, d'amours impossibles et de compromissions insupportables. Je vous laisse la parole, Olivia Seigne.
En retard. En fait, oui, elle était en retard. Le mot même résonnait à ses oreilles comme une pulsation démente. Retard, tu es en retard, retard, retard. Un principe du temps. Une fois que vous êtes en retard, vous ne pouvez plus ne pas l'être. Une fois que vous êtes en retard, votre destin est inéluctable. Inexplicablement, impardonnablement, 18 minutes de retard. 18 minutes. À la réunion du conseil d'administration de Charters Hall, à cette réunion cruciale du mois de mai en prévision de laquelle M.R. avait travaillé d'innombrables heures. Des heures, des jours, des semaines, la présidente Neukirchen avait travaillé. Budget de l'année à venir, questions des admissions, propositions d'aide aux étudiants, développement. Elle était en retard, haletante, les yeux fiévreux, les mains tremblantes, mais habilement, comme souvent les gens affligés de tremblements, elle savait immobiliser ses mains, serrer ou saisir quelque chose afin de dissimuler ce tremblement qui était tout récent, daté du matin. Et il n'y avait rien qu'elle pût faire pour ne pas être en retard. Toutes mes excuses, je suis navrée, une urgence, un coup de téléphone. La croyait-il ? Pourquoi ne l'aurait-il pas cru ? M.R. Neukirchen ne mentait pas. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru ? Avait-elle déjà eu recours à cette explication ? Ces mots ? Avait-elle déjà bégayé ces mots ? Devant ce même groupe de personnes ? Elle ne le pensait pas. Elle était certaine du contraire. Et pourtant, pourquoi la dévisageait-il de cet air sceptique ? Et cette expression sur leur visage ? Inquiétude, étonnement, préoccupation ? Qu'est-ce que cela signifiait ? En quoi le fait qu'ils étaient des trustees signifiait-il que MR devait leur faire confiance? Cette réunion de mai, cette réunion cruciale du mois de mai, une réunion annuelle et une réunion cruciale, et ces gens-là étaient des trustees, les trustees de l'université qui avaient engagé MR Neukirchen. Ils étaient ses employeurs, en quelque sorte. Ils étaient ses superviseurs. Son salaire et son contrat étaient décidés par les trustees. Le président est à la solde des trustees et ne peut leur désobéir ni les offenser. Il ne peut pas perdre leur confiance. Et pourtant, 18 minutes de retard, ce serait consigné, supposait MR. Les séances du conseil d'administration étaient scrupuleusement enregistrées pour des raisons juridiques aussi bien que pratiques. Les réunions de l'éminent conseil d'administration de l'université avaient lieu traditionnellement dans la chambre octogonale de Salvager Hall, une belle pièce en rotonde avec vitraux, plafonds, meubles anciens en acajou sculpté, table octogonale, fauteuil grand bourré, et au mur, les portraits des premiers présidents révérés de l'université, dont le plus imposant était celui du révérend Ezekiel Charters, lequel avait eu, sur le sexe féminin, les enfants, les sauvages indiens, les noirs et toutes les sectes religieuses, à l'exclusion de la sienne, des opinions exactement opposées à celles de la présidente Neukirchen et, pour tout dire, répugnantes et obscènes à ses yeux. Le révérend Charters et elle étaient cependant de la même lignée, singulière et unique. Souris, souris, question visage, c'est du pareil au même. Madame la présidente, quelque chose ne va pas? Très vite, elle répondit, mais non, bien sûr que non. Avec l'envie de dire qu'il était ironique qu'elle eût hérité de la présidence de l'université alors que son premier président, Ezekiel Charters, n'aurait eu que mépris pour la femme et pire encore pour la sauvage impie qu'elle était. Non, bien sûr que non. La seule réponse possible à une question aussi insultante. Ces gens, ces trustees, 28 en tout, autour de la table octogonale. Un par un, elle les compta. Elle ne pouvait empêcher son cerveau de compter. Sa première année de présidence. Elle était à peine au terme de sa première année. Première femme, première année, premier président femme de l'université. Quelle reconnaissance elle éprouvait, mais aussi quel ressentiment. Première femme, pourquoi était-ce aussi important? Pourquoi le sexe était-il aussi important? C'était un paradoxe classique de la philosophie. Où est le moi? Dans le corps ou dans l'âme? Existe-t-il une âme d'ailleurs? Existe-t-il un moi? Ou plutôt des mois? Ou plutôt... l'horreur la plus probable dans la lumière crue du jour au sortir d'une nuit d'insomnie, pas de moi, autre qu'une matière cérébrale perpétuellement menacée d'anéantissement. Elle était haletante, distraite et agitée, comme si on l'avait brutalement tirée d'un rêve. Sa tenue n'était pas vraiment débraillée, mais quelque chose laissait à désirer, et ses cheveux, eux, étaient ébouriffés, comme si elle avait à peine eu le temps de se donner un coup de peigne, et son visage... le pauvre visage ravagé de M.R. la trahirait en fin de compte, car il était étrangement enflé autour de la bouche et maquillé en hâte, étrangement, avec une sorte de pâte qui, en séchant, avait foncé comme de la boue. Fini la Valkyrie au visage rayonnant, son visage ressemblait maintenant à l'un de ces visages masques primitifs des demoiselles d'Avignon de Picasso. La présidente Neukirchen parlait pourtant avec une clarté inhabituelle, comme on prononce des mots d'une langue étrangère dont le sens ne vous est pas parfaitement clair. Et la présidente Neukirchen accueillit courtoisement les trustees et les remercia d'être venus. Et pendant son discours de bienvenue, surgit brusquement dans son champ de vision, gauche, comme un diable sortant de sa boîte, un gentleman dont le visage était familier, un gentleman âgé aux cheveux argentés, portant un costume élégant, un nœud papillon. Elle connaissait son nom, Lockhart, mais pas son prénom. et le rabroie gentiment pour dissimuler la contrariété qu'elle éprouvait à être interrompue avec cette indélicatesse. Eh bien, Lockhart, on arrive en catimini ? Ce fut un moment étrangement tendu. Léonard Lockhart la dévisagea bouche bée, puis murmurant une excuse, s'assit à la table octogonale. M.R. n'avait pas le temps de se demander pourquoi son conseiller juridique principal était brusquement apparu dans la salle pour prendre place parmi les autres, comme si cela n'avait rien d'inhabituel. Elle supposa alors, cela lui vint à cet instant, telle une évidence, que son conseiller juridique avait déjà rencontré les trustees à son insu. « Il est mon ennemi. Mon ennemi ici à demeure. Et son équipe aussi. Certains d'entre eux étaient probablement au courant de la conspiration. » Mais elle ne dirait rien, bien entendu. Elle tempérerait de ruse sa peine et son indignation. Qui avait-elle pour ami et qui pour ennemi parmi les trustees, se demandait M.R. Au début, elle était persuadée qu'ils étaient tous des amis, des partisans de M.R. Neukirchen, qu'ils étaient tous des admirateurs, enthousiastes. Une supposition naïve à laquelle il lui fallait renoncer. Car maintenant, ils étaient là, pour la juger. Indubitablement, leur salutation avait été crispée. Tous ne lui avaient pas souri avec la chaleur qu'elle aurait souhaitée. Tous ne l'avaient pas appelée « Meredith », de ce don particulier qui indique « Je vous aime bien, je suis votre amie ». Avec astuce, la présidente Neukirchen survola certains points de l'ordre du jour pour pouvoir présenter aux trustees son nouveau projet ambitieux. Une réforme de l'aide aux étudiants, des bourses couvrant l'intégralité des frais de scolarité pour tous les étudiants qui étaient admis à l'université indépendamment de la situation économique de leurs parents, et notamment pour les enfants de familles aux revenus faibles et moyens, gravement négligés par la priorité donnée à la diversité raciale. Car l'université était très riche, comme le savait bien le Conseil. En dépit du fléchissement de l'activité économique, l'université avec la plus forte dotation par étudiant de tout le pays. Et de toute façon, les frais de scolarité ne couvraient qu'une infime partie des coûts d'exploitation de l'université. Bien que passablement distraite, M.R. se rendait compte qu'elle ne suscitait pas, parmi les personnes assises à la table octogonale, les sourires, hochements de tête et murmures d'approbation dont elle avait pris l'habitude dans ce genre de réunion. Pour on ne sait quelle raison, ce courant d'attention flatteuse s'était tari. Peu de trustees, en effet, paraissaient convaincus. M.R. avait préparé pour cette présentation des tableaux, des graphiques, des statistiques. Elle triompherait de leur opposition à l'usure si aucune autre stratégie ne prévalait. Des questions furent posées à M.R. sur la faisabilité de sa proposition, car le nombre d'étudiants du premier cycle était contingenté. La tradition voulait que l'université ne s'agrandisse pas. C'était une institution d'élite qui devait le rester et ne pas succomber aux pressions d'une éducation socialisée. Et puis il fallait conserver des places pour les legs, bien entendu. Les enfants et petits-enfants des anciens élèves. Des anciens élèves fortunés, les donateurs, les trustees. Car telle était la tradition tacite de l'université, l'un des établissements les plus convoités de l'Ivy League, le service des admissions accordait un statut particulier au dossier de candidature des étudiants apparentés aux trustees. C'était ce qu'on appelait les legs. Pardonnez-moi, vous ne m'avez pas écouté, je pense. Il n'est pas question d'éducation socialisée, mais d'un enseignement privé assumant ses responsabilités dans un secteur public. Un enseignement d'élite pour tous ceux qui le méritent tous. Notre pays est une méritocratie, pas une aristocratie. Noblesse oblige, voyez-le sous cet angle. À vous d'assumer la noblesse et nous, éducateurs, nous chargerons de l'oblige. Des crapauds venimeux. Ces paroles remarquables jaillirent de la bouche de la présidente Neukirchen exactement comme les petits crapauds venimeux d'antan. Et une fois libérés, ces délicieux petits crapauds ne peuvent être rattrapés. Telle est la nature de l'espèce crapaud venimeux. Autour de la table octogonale, tous dévisageaient M.R. Neukirchen avec stupéfaction et avec la fascination qui suit la stupéfaction. Ces remarques étaient-elles spirituelles? Se voulaient-elles spirituelles? Quelques personnes ébauchèrent un sourire, quelques autres clignèrent des yeux. Personne ne rit.
Merci, Olivia Seigne, pour cet extrait de Mud Woman de Joyce Carol Oates. Il y a quelque chose de troublant dans cet extrait. On entend une seule fois le prénom de la présidente Neukirchen. Je ne sais pas si vous l'avez retenu. Meredith, qu'est-ce que ça vous inspire, ceci? On parle tout le temps de la présidente Neukirchen, mais on ne dit jamais son prénom. Une fois.
Ouais, moi, je l'ai senti alors spontanément là, un peu comme un jeu entre le costume qu'elle porte ou la fonction qui est la sienne et puis une brève irruption de qui elle est à un moment où elle voit plutôt ce qu'on pourrait ressentir ou pas pour elle, en fait.
C'est ça. En 2008, la Suisse romande accueillait pour la première fois une rectrice à la tête d'une université. C'est en l'occurrence celle de Neuchâtel. Grâce à Martine Rayet, le plafond de fer se fissurait enfin. Mais je crois que ce n'est pas le cas partout et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce plafond de fer, Stéphanie Glacet.
Pas beaucoup de bien, évidemment. Je pense que c'est un fait qu'il n'est probablement pas si complexe que ce qu'on pense à comprendre comme phénomène et que surtout les moyens supposés, palliés, cette difficulté sont rarement les bons. Dans le sens où tant que les conditions concrètes de la quotidiennité des femmes n'auront pas changé, ben ce sera difficile. On a beau dire, je sais pas, dans la recherche, par exemple en littérature, que l'accès au poste est le même. Même si c'était le cas, la vie qui permet l'accès au poste n'est pas encore la même.
Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia Seigne? Est-ce que je peux vous poser la question de ce plafond de verre aussi dans votre art?
Alors, peut-être que je prendrai comme référence justement cet extrait. Ce qui m'a frappée, ce qui me frappe là, c'est la dichotomie, le contraste entre une femme qui accède vraiment à un poste de pouvoir, qui est une femme puissante, intelligente, cultivée, enfin vraiment qui a une autorité et qui a acquis une confiance aussi grâce à sa formation et tout ça. Mais il y a... Bon, c'est aussi lié à son histoire. Quand on lit le livre, on comprend de sa petite enfance. Mais il y a toujours cette espèce de voix qui la rattrape et qui lui dit non, t'es pas légitime, c'est pas la bonne place pour toi. Et elle est toujours dans cette espèce de combat qui lui demande une énergie et qui la bouffe de l'intérieur. Et au fond, je pense que il y a des moments. Mais peut-être que c'est pas spécifique aux femmes. C'est difficile. C'est difficile d'être toujours en accord avec là où on est, avec l'endroit qu'on aimerait défendre et tout ça. Et puis, quand on accède parfois à des postes comme cette rectrice de l'université, on est confronté à une grande solitude. Et puis, on devient la première, la référence. On doit se construire soi-même et construire une référence et une identité. Et je pense que ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, j'ai beaucoup de respect. Voilà.
Merci. Stéphanie, vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport justement à cette difficulté, à cette, vous avez prononcé le terme d'illégitimité, de toujours se légitimer.
Alors, peut-être plus avec ma casquette de thérapeute, parce que quand j'écris pas des romans noirs, j'écoute les histoires noires des gens. Si on change complètement, peut-être le focus ou la focale était avant réglé plutôt sur la responsabilité, qui, à mon avis, est la première, qui est celle du monde dans lequel on vit, la société des structures. Maintenant, si on va avec cette question-là plutôt dans ce que les femmes, certaines femmes, ont pu intérioriser, il y a probablement dans la manière dont on est sociabilisé en tant que femme un risque plus grand de développer une voix intérieure un peu comme celle dont tu parlais qui se fait l'écho d'une crainte d'illégitimité ou d'une impression qu'il y aura plus à faire, plus à prouver, plus à démontrer. Ça, c'est tout à fait possible.
Dans un petit livre écrit par Florence Sandis et qui s'intitule « Briser le plafond de verre », l'auteur donne quelques clés dont celle-ci: être fière de sa féminité. Qu'en pensez-vous?
Alors moi, je pense absolument que toutes les valeurs vers lesquelles on va pouvoir se tourner de manière positive vont en fait Moi, j'ai pas une forme de pensée féministe qui tendrait à ne pas polariser les choses. J'ai plutôt une forme de pensée qui tendrait à vraiment célébrer les attributs qu'on prête d'habitude à l'aspect féminin, tout en sachant qu'on a chacun et chacune un aspect féminin et un aspect masculin en nous, et que si on peut réhabiliter ces valeurs de liberté, de sensualité, de joie, de créativité, notamment de convivialité aussi, le monde irait beaucoup, beaucoup mieux.
Vous corroborez ?
Oui, tout à fait, je corrobore. Je corrobore, alors vraiment, avec un grand C.
Parmi les écrivaines féministes radicales, il y a Virginie Despentes. Prenez le temps de prendre un verre d'eau, Olivia Seigne. En 2006 paraît King Kong Theory, qui devient très rapidement le manifeste d'un nouveau féminisme. Vous nous en lisez un extrait.
Sur Internet, je tombe par hasard sur une lettre signée Antonin Artaud. Une lettre de rupture, d'éloignement en tous les cas, adressée à une femme qu'il déclare ne pouvoir aimer. J'entends bien que, dans le détail, son affaire doit être compliquée. Mais à l'arrivée, ça donne ça. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Je suis désespérée de solitude. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre seule et sans aucune des facilités de la vie à portée de ma main. Il me faut un intérieur, il me le faut tout de suite, et une femme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Une artiste comme toi a sa vie et ne peut pas faire cela. Tout ce que je te dis est d'un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie, je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Depuis petite, depuis Goldorak et Candy, qui passaient à la suite à la sortie de l'école, à la télé, j'ai la passion d'inverser, juste pour voir. J'ai besoin d'un homme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Ça sonne tout de suite différemment, hein. L'homme n'est pas là pour rester à la maison ni pour être possédé. Quand bien même j'aurais besoin ou envie d'un homme qui serait uniquement à moi, tout me conseille de modérer mes ardeurs et au contraire d'être entièrement à lui. C'est pas la même chanson. Il n'y a personne alentour qui soit politiquement assigné à sacrifier sa vie pour adoucir la mienne. Ça n'est pas réciproque comme rapport d'utilité. De la même façon, je ne pourrai jamais écrire en toute bonne foi égoïste « Il me faut un intérieur, tout de suite, et un homme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. » Si jamais je rencontre pareil homme, c'est que j'aurai les moyens de le salarier. Il ne m'est même pas nécessaire que cet homme soit très mignon. Je ne veux pas non plus qu'il soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'il réfléchisse trop. Il me suffit qu'il soit attaché à moi. Ma puissance ne reposera jamais sur l'inféodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir, s'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir. Tant mieux. Dans la littérature féminine, les exemples d'effronterie ou d'hostilité contre les hommes sont rarissimes, censurés. Moi, je suis de ce sexe-là qui n'a même pas le droit de mal le prendre. Colette, Duras, Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toute une histoire de femmes auteurs qui toutes prennent soin de montrer patte blanche, de rassurer les hommes, de s'excuser d'écrire en répétant combien les aiment, les respectent, les chérissent et ne veulent surtout pas, quoi qu'elles écrivent, trop foutre le bordel. On sait toutes que sinon, la meute s'occupera soigneusement de ton cas.
Un extrait de King Kong, théorie de Virginie Despentes, des mots sans tabou, une signature qui vise à secouer les consciences. C'est aussi cela, la littérature, bousculer les consciences. Stéphanie Glasset.
Absolument, et je pense qu'on a une chance inouïe maintenant de pouvoir le faire de cette manière-là, en fait, avec de vrais espaces de liberté, de vrais espaces d'écoute, de vrais espaces d'écho, comme ceux qu'on trouve ce soir. Et puis, moi, je trouve quand même une forme de sécurité. En étant la personne que je suis aujourd'hui, en écrivant aujourd'hui, il y a peu de domaines dans lesquels je me sens réellement en danger si je m'aventure. Et je pense que ça n'a pas souvent été le cas dans l'histoire. Je ne suis pas sûre que ça restera le cas dans l'histoire. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression de pouvoir jouir de ça aujourd'hui.
C'est aussi le cas pour vous, Olivia Seigne, au théâtre. On bouscule les consciences.
Le théâtre, c'est vraiment l'endroit où... C'est pas l'endroit du consensus, de la politesse, de... C'est vraiment l'endroit où on peut poser les choses. On a cette liberté-là, on peut provoquer, on peut susciter la réflexion, les émotions, la poésie. Et je pense qu'on a une énorme chance d'être dans cette partie du monde où on bénéficie d'une telle liberté. Puis peut-être que des fois, on l'oublie, on s'habitue effectivement comme si c'était un acquis éternel. Et je pense que peut-être qu'on est dans un moment où on peut vraiment goûter cette liberté, en prendre encore plus conscience et prendre la parole avec la joie aussi, simplement, d'être à cet endroit, à cette époque donnée. Et je pense que c'est vraiment un grand privilège, vraiment. Voilà.
Stéphanie Glasset.
Oui, alors j'ai adoré passer j'avais le mot joie en tête. Je pense que... En fait, il pourrait y avoir presque un risque de s'endormir sur nos non-lauriers, dans le sens où le moment précis qu'on vit maintenant, je trouve, est en train, par exemple, de revitaliser, relexicaliser le mot de paix. Moi au moment où je suis née, dans mon enfance, mon adolescence, pour moi, la paix, c'était l'absence de guerre. Je savais qu'il y avait des pays en guerre, mais je n'avais pas l'impression que c'était un privilège, une chance. Je ne me levais pas le matin en me disant... je vis dans un pays en paix, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ressent, on revoit, on reconnecte au privilège d'être en paix. Et je pense que par rapport à la liberté, alors d'écrire, de jouer, de créer, mais simplement d'exister en tant que femme dans l'espace public, moi, c'est une liberté pour laquelle je n'ai pas eu l'impression de devoir me battre très fort. C'est comme, par exemple, moi, j'ai fait le choix de ne pas vouloir d'enfant. Ce n'est pas quelque chose où j'ai beaucoup souffert. Et des fois, ça pourrait presque déprécier la chose. On pourrait se dire, tiens, en fait, je suis libre. Cette liberté-là, j'ai l'impression que c'est vraiment important de l'éprouver. Dans le sens où, moi, je nourris pas une posture forcément d'un féminisme très méfiant à l'égard de ce qui se passe. Ce n'est pas très mental. C'est plus quelque chose que j'incorpore, où je me dis... Si ma joie ou mon envie, parce que pour moi la joie c'est l'acte de rébellion le plus pur et le plus puissant qui soit, m'emmène quelque part, il faut absolument que j'y aille. Que ce soit une direction, une expérience, une aventure, une expérimentation, un texte. Et c'est seulement en y allant que je pourrais me rendre compte que tiens, peut-être ma liberté est contrainte. Alors que là, il faudrait entrer au combat. Mais je pense que la plus belle manière, la plus noble de porter l'étendard de cette liberté, c'est de l'éprouver dans le monde, en fait. Et je pense aussi, parce que je suis très optimiste, qu'on se rend parfois compte qu'on est beaucoup plus libre que ce qu'on pensait. Et qu'on avait construit des prisons un peu mentales de « qu'en dira-t-on ?» Mais nous, on a cette chance... que même si nos libertés sont réprouvées, on ne se met pas trop en danger physique, en fait. Au pire, c'est un danger d'image. Et souvent, il ne vient pas, ce danger. Donc, moi, je dirais, suivons nos joies et éprouvons nos libertés.
Je crois que c'est presque le mot de la fin, parce que la cloche a sonné. Donc, il est 18h un peu passé. Effectivement, on arrive au terme de cette rencontre. Je vous remercie infiniment, Stéphanie Glasset et Olivia Seigne, de cet échange riche. À l'occasion de ce 8 mars, journée des droits des femmes, je remercie également Raphaël Vuadens-Schopfer et toute l'équipe de la Casanova de nous avoir accueillis dans ce salon des écrivaines. Merci aussi grandement à Dominique Stalder pour la prise de son, la diffusion en direct et l'enregistrement de cette rencontre que vous pourrez retrouver sur le site www.pavillonnomade.ch. Je vous propose qu'on se quitte sur les mots de Gisèle Halimi, la grande avocate et défenseuse des droits des femmes. Des mots qui sont parus en 2020, après sa disparition. Elle disait ceci: « N'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Organisez-vous, mobilisez-vous, soyez solidaires, pas seulement en écrivant « moi aussi », MeToo, sur les réseaux sociaux. C'est sympathique, mais ça ne change pas le monde. Soyez dans la conquête, gagnez de nouveaux droits sans attendre qu'on vous les concède. Désunies, les femmes sont vulnérables. Ensemble, elles possèdent une force à soulever des montagnes et convertir les hommes à ce mouvement profond, le plus fascinant de toute l'histoire de l'humanité. On ne naît pas féministe, on le devient. Merci.
Que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille. J'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai? Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paris, je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille. Marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai? Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile. Une fille virile.
J'ai volé ton trop sexy. J'ai volé ton
Baby boy.